Et voilà. Comme les feuilles d'un marronnier poussent au printemps, la question du maillot sur la plage arrive avant chaque été. Et avec elle, de nombreuses publicités, dans la rue, les transports en commun et même en vitrine dans les pharmacies. Avec cette crème, perdez jusqu'à 5 cm de tour de taille. Avec cette gélule, 3 fois par jour pendant un mois, vous perdrez 8 kg sans effort. Avaler des aliments dont on ne connaît pas très bien la nature, se passer une crème qui pénètre à l'intérieur de notre corps, tenter toute une palette de régimes hyperprotéinés, hypoprotéinés, régimes préhistoriques et même régime des vikings, avoir recours à la chirurgie esthétique, un secteur qui se porte de mieux en mieux. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour être beau dans le maillot? Les régimes sont-ils efficaces? Les compléments alimentaires sont-ils dangereux? L'acide hyaluronique est-il une arnaque? Et au fait, pourquoi faudrait-il être beau dans son maillot?
France Inter, grand bien vous fasse, Thomas Chauvineau.
Samantha,
laisse-moi te regarder, tu es resplendissante.
Tu trouves? C'est l'opération. On a retiré de la graisse de mes fesses pour l'injecter dans mon visage. Touche, une vraie peau de bébé.
Absolument fabuleux.
N'est-ce pas? La graisse de mes propres fesses. Oh, et le plus amusant, c'est qu'on te force à manger pour engraisser ton postérieur et une semaine après, pouf, c'est ton visage. Je dois filer. Bye.
Je ne sais pas si c'est une véritable opération qui existe, on posera la question puisqu'un chirurgien plastique est avec nous aujourd'hui. Un extrait de Sex in the City, jusqu'où aller pour être beau, hein. On se pose cette question pendant une heure avec vous aussi, hein. Dites-nous, vous, jusqu'où vous êtes prêt à aller? Dites-nous si vous avez essayé ces crèmes, ces compléments alimentaires ou même la chirurgie esthétique, la graisse des fesses sur le visage. Ou au contraire, dites-nous aussi si vous vous sentez bien dans votre corps et que finalement vous n'avez pas besoin de tout ça, ce qui est peut-être mieux dans le fond. Grand bien vous face à radiofrance.com et au standard 01 45 24 7000. Toute l'équipe de Grand Bien vous fasse, ils sont là tout beaux dans leur maillot. Alexia Rivière, Claire Destacan à la réalisation, Lorraine Bess, Clara Marlio à la technique ce matin, Alice Berger, Fabrice Desmas et au standard, Clarisse et Ulysse attendent vos appels et trois invités, hein, je le disais, pour participer à cette émission aujourd'hui. Elisabeth Azoulay, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ethnologue, vous avez notamment écrit il y a quelques années 100 000 ans de beauté, c'est aux éditions Gallimard. Jacques Fricker, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes nutritionniste et vous venez de publier aux éditions Odile Jacob tout sur les compléments alimentaires, les bons et les moins bons, en sous-titre. Et Bertrand Matteoli, bonjour.
Bonjour.
Chirurgien plastique, de chirurgie réparatrice et esthétique. Vous venez de publier Bien dans sa peau aux éditions du Chêne. Et c'est vrai que c'est peut-être la première des questions qu'il faut se poser avant tout, quelle que soit la méthode employée, les compléments alimentaires ou la chirurgie ou le sport dont parlait Lionel Thompson, ce qui compte aujourd'hui, c'est d'être bien dans sa peau.
Absolument, oui, ça peut passer par différentes techniques, plus ou moins légères ou plus ou moins lourdes. Ou
la graisse des fesses sur le visage, ça existe?
Oui, ça
existe.
C'est-à-dire que la graisse, elle est de plus en plus utilisée pour remplir des trous ou des dépressions, que ce soit pour reconstruire des seins. Au début, ça a été fait beaucoup pour reconstruire des seins. Après, les amputations de seins pour les cancers, les reconstructions de seins, ça se fait beaucoup. Et puis, ça peut se faire effectivement pour combler des sillons nasogéniens, comme l'acide hyaluronique. C'est un petit peu la même chose au niveau du visage, oui. Mais enfin, l'histoire de Sex and the City, c'est plus que un petit peu une caricature de la chirurgie esthétique. C'est beaucoup plus simple, hein. C'est pour qu'on se sente bien, pour qu'on se sente mieux. C'est pas pour changer les gens, c'est pour faire en sorte qu'ils soient les mêmes, mais en mieux. En tout cas, qu'ils aient le sentiment de se sentir mieux. Puis c'est tout, hein. Faut pas chercher plus que ce qu'elle peut donner. C'est déjà pas mal, remarquez.
Thibaut de Saint-Maurice est là également avec nous comme tous les lundis. Bonjour Thibaut.
Bonjour Thomas.
Et votre chronique dans Grand Bien vous fasse consacrée aujourd'hui à...
Eh ben justement à cette question-là qu'on vient d'évoquer, savoir si changer son corps, c'est devenir quelqu'un d'autre, c'est-à-dire en fait interroger le rapport qu'on a à son propre corps.
La petite philosophie quotidienne, ce sera tout à l'heure dans une petite poignée de minutes. Elisabeth Azoulay, je le disais de manière un peu ironique, en pied de nez au tout début de l'émission, mais c'est vrai, après tout, pourquoi est-ce qu'il faudrait être beau? Et pas seulement dans le maillot, hein, je veux dire dans la vie en général.
C'est une vaste question. En fait, on peut même se poser une autre question, c'est qu'est-ce que la beauté humaine? En fait, c'est une question très difficile. Quand on pose cette question, alors qu'on sait que la beauté humaine, ça a tellement été important dans toutes les sociétés, quand on pose la question à des gens, ben, ils n'ont pas beaucoup de définitions. En général, ils passent par une description. Ils disent, voilà, une femme belle, un homme beau, etc. C'est comme ci, comme ça. Et on s'aperçoit qu'il n'y a pas de définition de la beauté humaine, parce que tout simplement, c'est un produit culturel, la beauté. Et que, selon les sociétés auxquelles on appartient, eh bien, on a une toute autre définition de la beauté. Non seulement ça change en fonction de l'espace, mais ça change aussi dans l'histoire. C'est-à-dire que une beauté du XVIIe siècle n'est pas une beauté du XXIe siècle. Et puis, et donc aujourd'hui, on est habitué à penser la diversité. On est habitué à penser le changement. Et donc, on est bien embêté lorsqu'il s'agit de définir la beauté. Alors moi, comme j'ai dirigé en fait un ouvrage collectif qui a réuni 300 chercheurs en sciences humaines...
100 000 ans de beauté, on l'a cité tout à
l'heure. Ça s'appelle 100 000 ans de beauté parce que 100 000 ans, c'est le début des sépultures humaines. J'ai été obligée d'inventer une définition pour que tout le monde puisse bosser. Et finalement, la seule définition qui pouvait faire consensus entre tous ces chercheurs, c'était de dire que la beauté, c'était une quête humaine obligatoire. Autrement dit, qu'on ne sait pas définir le but, mais ce qu'on sait dire... c'est qu'on ne connaît pas de société humaine qui se soit dispensée d'avoir cette quête viscéralement chevillée au corps.
Avec des moyens pour y arriver qui sont sensiblement les mêmes aujourd'hui qu'il y a 100 000 ans. Enfin, on peut penser au maquillage, par exemple. Alors évidemment, il n'y avait pas de compléments alimentaires il y a 100 000 ans.
Il y avait des recettes.
Jacques Fricker. Mais il y avait quand même, oui, des méthodes qui existaient avec des formules et des plantes.
Oui, d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, tous ces moyens d'intervention sur le corps, il y a des catégories de moyens qui changent pas tellement. Il y a le fait d'avoir une ascèse personnelle, de gérer son alimentation, gérer sa silhouette, le sport, l'alimentation. Il y a le fait de déformer ou de conditionner la formation du squelette. Ça, on le voit dans plein de cultures, ça passe du crâne... à la silhouette, donc c'est plus ou moins violent, c'est-à-dire que ça peut passer par
notamment les femmes girafes en Afrique très connues.
Ça peut passer par des moyens très soft, hein, qui sont par exemple le fait au moment où on est très malléable lorsqu'on est enfant, le fait de façonner des parties du corps, le crâne des Olmèques. J'imagine les pieds, au début c'est pas très douloureux, les petits pieds des Chinoises, etc. Ça finit par l'être, parce que c'est pas fonctionnel. Hein. Mais donc on peut façonner le squelette. Et puis après on peut avoir accès à des moyens beaucoup plus violents. Voilà. Et puis après, il y a le fait d'inscrire des choses sur le corps. Le tatouage, la scarification, etc. Le maquillage. Alors ça effectivement on trouve dans toutes les cultures du maquillage. Et puis après tout ce qu'on peut faire sur des parties du corps qui sont pas très sensibles comme les cheveux, avec la coiffure, les ongles, etc.
Jacques Fricker, vous êtes nutritionniste. Est-ce qu'il y a des méthodes miracles qui existaient il y a 100 000 ans comme il y en aurait aujourd'hui en 2017?
Non, il y a pas de méthode miracle. Ce qui est vrai.
Mais c'est bien de le dire et de le redire. Il y en a pas.
Il y a jamais eu, il y a pas actuellement de méthode miracle.
Qu'on peut lire devant les vitrines des pharmacies ou alors dans les journaux aujourd'hui,
dans les régimes, à la télévision et autres, c'est ce qui est totalement absurde. D'abord, il y a eu effectivement des variations, si on parle par exemple de la beauté de la femme. Il y a des constantes et il y a des variations. Il y a quand même une constante, du moins actuellement, quand on fait des études sur les différentes sociétés, que ce soit en Asie, en Afrique... La silhouette féminine que les hommes préfèrent, en très très grande majorité, c'est une taille fine par rapport aux hanches. Il y a des hanches plus larges que la taille, ce qui est finalement rassurant pour les dames qui cherchent trop souvent à perdre la culotte de cheval, et qui est le fait d'avoir des hanches plus larges que la taille est quelque chose qu'apprécient les hommes chez une femme. Par rapport à la beauté féminine est souvent vue comme ça dans la plupart des sociétés.
Elisabeth Azoulay n'a pas l'air vraiment d'accord avec vous.
Après, ce qui change, enfin, par rapport à moi, ce que j'ai lu, ce qu'on voit à travers la peinture, et à travers ce qui va changer, c'est le fait que son soit plus ou moins ronde. Mais le fait d'avoir une taille plus fine que les hanches, c'est quand même quelque chose qui est pratiquement toujours trouvé dans la beauté féminine.
Dans les normes. Ouais, on peut poser Elisabeth Azoulay.
J'ai un peu du mal avec ces choses qu'on pose d'une manière universelle. Parce qu'en fait...
on les pose en montrant des silhouettes, non pas des photos, mais des silhouettes.
Mais avec une représentation très occidentale.
Mais vous êtes forcément sur des périodes... d'abord, le début de la représentation humaine, c'est moins 30 000 ans.
Non, mais je parle aujourd'hui. Quand on fait aujourd'hui, dans 50 pays, c'est pratiquement toujours retrouvé, ça.
Mais ce qui est certain aussi, c'est que les modes changent et très très vite. Moi, je vois ça fait une trentaine d'années que je suis installé un petit peu moins, mais par exemple, la taille des seins, le volume des seins est très fluctuant. sur 5 ou 10 ans, on va passer, par exemple, quand on augmente une poitrine en mettant des prothèses, bon, on va passer de 200 à 250, 300, parce qu'il suffit qu'il y ait une émission de télé. À l'époque où il y a eu Baywatch, enfin, beaucoup de gens sont trop jeunes, vous savez, avec Pamela Anderson qui courait sur la plage.
C'est Alerte à Malibu, hein, pour le titre français.
Ça fait augmenter la taille des prothèses, que ce soit aux États-Unis, mais aussi en Occident, d'une manière très importante. On est intervenu à une taille qui était beaucoup plus, à la rigueur, plus soft. Et puis maintenant, depuis 2-3 ans, il y a une réaugmentation de la taille des seins parce que c'est la mode. C'est un fait qui est établi. Et peut-être que dans quelques années, on s'apercevra que les seins étaient trop gros. Et puis on va redescendre à des niveaux qui sont, à mon avis, plus convenables. Donc c'est très, très fluctuant et assez rapidement.
Et c'est lundi, c'est philosophie. Et comme tous les lundis, il est là, fidèle au poste, Thibaut de Saint-Maurice, pour sa petite philosophie de la vie quotidienne.
La petite philo de la vie quotidienne.
La vérité n'est jamais amusante à dire, sans ça tout le monde la dirait.
Thibaut de Saint-Maurice.
Et vous avez l'intention de me la dire?
Oui.
Et Thibaut, ce matin, vous vous demandez si tous ces changements dont on a commencé à parler, qu'on réalise sur notre corps, nous font vraiment devenir quelqu'un d'autre.
L'épilation à la cire n'est pas nouvelle, certes, et remonte à la plus haute antiquité. Cette jeune femme va donc faire épiler ses jambes par la méthode qui est la seule valable. Tout d'abord, repousser les poils dans le sens contraire de la pousse. La cire, qui a été appliquée dans le sens inverse de la pousse du poil, est bonne à enlever dès qu'elle ne colle plus au doigt. Retirer la bande dans le sens du poil, ce qui permet de l'arracher jusqu'au bulbe. Maintenant, l'épilation à la cire est passée dans les mœurs. Voici notre amie toute heureuse du résultat. Nous la comprenons.
Et vous la comprenez,
oui,
Thibaut.
Voilà, parmi donc les changements qu'on peut effectuer sur son corps, on a par exemple la bonne séance d'épilation, comme on vient de l'entendre. Épilation d'ailleurs qui séduit de plus en plus les hommes, semble-t-il, comme quoi l'égalité peut aussi se faire dans les deux sens. Alors tous ces petits changements dont on parle, ces améliorations esthétiques, participent d'un souci d'amélioration de soi. Nous souhaitons ainsi être plus beaux, tout autant aux yeux des autres qu'à nos propres yeux. Mais le point de départ, c'est l'idée que notre corps ne correspond pas exactement à la personne que nous sommes ou que nous souhaitons être.
Donc tous, nous nous sentons finalement comme affublés d'un corps qui ne nous ressemblerait pas.
Oui, exactement. Un peu comme si notre identité se trouvait divisée entre un corps matériel extérieur et un esprit intérieur. Et cette opposition entre le corps et la personne repose en fait sur une conception, alors que les philosophes nomment avec un gros mot, on dit une conception dualiste du corps et de l'esprit. Corps et esprit seraient deux réalités différentes, bien obligées de vivre ensemble. Et Socrate, par exemple, voyait cette union comme une limite. Le corps, disait-il, est la prison de notre âme. C'est la résidence à laquelle nous sommes assignés. Et à cause de lui, nous ne pouvons pas être tout ce à quoi nous aspirons. Alors nous pouvons bien vouloir le changer, avoir le souci de sa santé ou de sa beauté. Cela ne fera que lui donner une apparence plus conforme, mais au prix d'une lutte permanente, d'efforts sans cesse renouvelés. Et puis au bout du compte, de toute façon, une défaite inévitable. Le conseil de Socrate, ça serait plutôt un lifting de l'âme, un régime de l'esprit avec option épilation des désirs sensibles, parce que la seule façon d'épanouir ce que l'on est, d'être heureux et d'atteindre la sagesse, c'est plutôt de libérer l'âme.
Oui, mais on ne peut pas oublier totalement le corps. Les personnes que l'on aime, ou on les aime aussi pour leur corps, non ?
Mais oui, notre corps, ça n'est pas qu'une apparence.
C'est pas que la beauté cachée, quoi.
C'est ça. Ce n'est pas non plus notre corps qu'un ensemble d'organes indifférenciés. Et c'est d'ailleurs ce qui nous trouble donc dans un corps qui danse, par exemple. Et c'est aussi pour cela, vous l'avez dit, que le désir que l'on peut ressentir pour quelqu'un est indissociablement désir de son corps. C'est que nous ne vivons pas simplement dans notre corps, nous vivons aussi notre corps. Notre corps n'est pas un objet que l'on porte, mais une expérience personnelle que l'on traverse. Le philosophe Merleau-Ponty, dans tout son travail, s'attache à montrer que le dualisme du corps et de l'esprit est une abstraction et qu'il faut donc plutôt apprendre à redécouvrir le corps propre, notre propre corps. Non pas le corps que l'on a, mais le corps que l'on est. Pour Merleau-Ponty, mon corps est comme la doublure de mon esprit et mon esprit comme l'envers de mon corps. C'est l'idée d'une personnalité incarnée ou d'une incarnation personnelle. Du coup, quand je modifie l'apparence de mon corps, ça exprime ou ça affecte tout ce que je suis. Les régimes ou la chirurgie esthétique ne sont donc pas des pratiques qui seraient bonnes ou mauvaises en elles-mêmes. Tout dépend de ce qu'elles disent du rapport que l'on a avec son corps. Si je change mon corps comme un objet que je manipule pour le rendre conforme, par exemple, eh bien je passe à côté de sa dimension personnelle. Et si au contraire j'ai le souci de son apparence parce que je prends soin de moi alors je reconnais le corps que je suis. Tout l'enjeu, c'est donc de se réapproprier son corps, mais au sens strict, qu'il redevienne mon corps propre, qu'il n'existe plus d'abord dans le regard des autres, mais d'abord dans le mien.
Un esprit saint dans un corps saint, Thibaut de Saint-Maurice, vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission ?
Avec plaisir.
Bah super. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour être beau, nous sentir bien aussi dans notre peau ? On attend toujours vos témoignages. 01 45 24 7000 et grand bien vous fasse à radiofrance.com. Et il est 10h23 et vous êtes bien sur France Inter.
Je ne t'oublierai jamais, criais-je sur le départ. Et la nuit s'est levée, nous blessant au hasard. Pour me perdre un peu plus, pour nous perdre un peu plus. Les mirages éteignaient, ne laissant sur la pierre que la soif. Et à mesure que la vie s'éloignait, ma voix perdait de sa force. Les dunes se déplaçaient, balayaient mes repères, laissant à découvert la route. Parsemée d'ossements, j'essayais doucement de contenir les vents. La route. Et l'orage s'avançait, nous faisant chevalier de ces légions fantômes. J'ai trop longtemps marché dans les pas d'un cyclone. Les mirages éteignaient, ne laissant sur la pierre que la soif. Et à mesure que la vie s'éloignait, ma voix perdait de sa force. Les dunes se déplaçaient, balayaient mes repères. J'ai prononcé des mots que je ne connaissais pas, jamais si proche de moi que ceux, les chemins de l'errance.
Vainqueur aux victoires de la musique cette année, catégorie révélation, découvert par France Inter en 2013, s'il vous plaît, Radio Elvis, et le titre, c'est La Route.
Thomas Chauvineau, grand bien vous fasse, sur France Inter.
Beaucoup de gens souffrent du problème de la graisse au ventre. Si vous avez ce souci, nous vous présentons cette solution. Prenez un bol et ajoutez 2 cuillères à soupe de sel d'Epsom, 4 à 5 cuillères à café de cannelle et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et faire bouillir dans 350 ml d'eau. Prenez un bandage de 1,5 m et le trempez dans la solution pendant 5 à 10 minutes. 3 et puis faites-le tourner autour de votre ventre. 4 ensuite, il suffit de le couvrir avec une bande en plastique pour une nuit. 5 le matin, éliminez le bandage et appliquez un peu de lotion pour hydrater. Si c'est jeter un œil au miroir, vous verrez une énorme différence.
Voilà, des conseils donnés maintenant par des robots, vous avez qu'à bien vous tenir, messieurs les médecins, Jacques Fricker, nutritionniste, Bertrand Matteoli, chirurgien plastique, vous allez bientôt être, peut-être, on vous le souhaite pas, mais remplacé par des robots qui donnent des conseils ineptes, parce que ce qu'on a entendu, évidemment, ça ne fonctionne pas, Bertrand Matteoli.
Non, je pense pas. Ou si ça fonctionne, c'est très très partiel. De toute façon, il y a pas de miracle en matière de corps. Il y a des choses qui peuvent être traitables soit par la médecine, par les régimes, et puis à un moment, enfin en tout cas en ce qui me concerne, pour ce qui est de la graisse, quand c'est une surcharge graisseuse localisée, la chirurgie, ça fonctionne très bien. Puis c'est d'une manière radicale et définitive.
Pas définitive, sauf si...
Jacques Fricker.
Parce que le problème de la chirurgie également, c'est quand vous faites une chirurgie style chirurgie plastique ou une ablation de graisse, s'il y a une prise de poids après, souvent la graisse va venir plus haut, d'une manière moins esthétiquement agréable que ce qui était avant. Donc, il faut quand même être très prudent.
Oui, mais la lipotion, c'est pas fait pour faire maigrir les gens, c'est fait pour enlever une surcharge graisseuse localisée à des gens qui ont un poids qui est stable, c'est évident.
Mais il faut bien prévenir la patiente que si elle prend du poids, il va y avoir des problèmes.
Trois invités ce matin pour se poser cette question. Jusqu'où sommes-nous prêts, nous, à aller pour être beau, pour nous sentir beau, pour nous sentir bien aussi? Il y a peut-être une différence. Donc Jacques Fricker, nutritionniste, et Bertrand Matteoli, chirurgien plastique, qui ne sont pas tout à fait d'accord sur la façon dont les choses peuvent se passer après de liposuccion. Également, Elisabeth Azoulay est avec nous, ethnologue, et Thibaut de Saint-Maurice, le philosophe de l'émission, est resté jusqu'à 11h pour débattre de cette question. Dans le livre que vous publiez, Jacques Fricker, il y a un chapitre plutôt intéressant qui s'appelle le bêtisier des pseudo-allégations. Et c'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup, des allégations.
Notamment sur Internet, mais même, effectivement, comme vous le disiez, à la télévision ou parfois même dans les pharmacies.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de ce qui fonctionne ou de ce qui ne fonctionne pas dans les compléments alimentaires, puisque c'est votre domaine de spécialité?
Alors d'abord, les compléments alimentaires, ça ne qu'un petit plus par rapport à l'alimentation. Le plus important, c'est manger. C'est bien manger, avec la présence de fruits, des légumes, des bonnes graisses, huile d'olive, huile de noix, huile de colza, les poissons, notamment les poissons gras. Tout ça, ça intervient au niveau de la peau, au niveau de la beauté, au niveau de la forme.
Donc ça veut dire que si on mange bien, on n'a pas besoin de compléments alimentaires?
Absolument. Si vous mangez bien, vous n'avez pas besoin de compléments alimentaires. Et dans certains cas, par exemple chez une femme qui a des règles abondantes, le fait de prendre du fer pour être intéressant au niveau de la perte de cheveux, parce que sinon il peut y avoir des pertes de cheveux en cas de carence en fer. Certaines carences en zinc peuvent se voir également chez les gens qui mangent peu pour une raison X ou Y. Mais c'est vraiment, ça concerne une faible fraction des personnes, uniquement dans certains cas. La vitamine D est également importante pour la masse osseuse. C'est important également d'avoir un bon squelette.
On la trouve où?
La vitamine D, on la trouve dans les œufs, dans les jaunes d'œufs. Donc surtout garder le jaune quand on mange un œuf. Dans les poissons gras, et même en conserve comme le thon, les sardines ou les maquereaux. Et puis c'est tout. Et dans le soleil. Mais le soleil, en hiver, on n'en a pas. Et on a quand même besoin de vitamine D en hiver. Donc là, le fait de prendre la vitamine D en complément alimentaire sera intéressant. Mais la base, c'est vraiment l'alimentation et le sport. Ne pas oublier, comme l'a dit notre ami tout à l'heure, l'activité physique qui est primordiale à la fois pour le poids et également pour la beauté. Parce qu'un corps un peu tonique et musclé sera plus beau en général qu'un corps d'un sédentaire.
Nous sommes au téléphone également avec Rita. Bonjour Rita.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez de cette bonne et belle ville de Lille, dans le nord de la France.
Oui, où on mange beaucoup de frites, où on boit beaucoup de bière.
Et on mange un pot de chevelèche formidable, une terrine avec trois viandes différentes et une bonne gelée bien froide et des frites en effet qui l'accompagnent. Bonheur.
Et ça, c'est vrai que c'est délicieux. Alors moi, j'en mange beaucoup. Et tous les matins, je me fais une bonne tartine de rillettes avec du saindoux. Mais je suis confrontée à un problème, c'est que je suis extrêmement maigre et que je n'arrive pas à grossir.
Et pourquoi ça vous pose un problème alors que précisément, on est dans une forme d'éloge de la maigreur?
C'est parce que là, c'est vraiment une maigreur où on voit vraiment toutes mes côtes, où j'ai pas du tout de poitrine, et on a l'impression vraiment que je suis quelqu'un de plutôt malade. Donc c'est vrai que j'ose pas me mettre en maillot de bain, par exemple. Je porte toujours des tuniques très très larges. Donc j'avais une question au nutritionniste Jacques Fricker.
Mais il vous écoute, il est là.
Comment peut-on faire pour prendre un peu de poids? Alors je fais du sport pour prendre un petit peu de masse musculaire. Je mange bien gras, comme je vous l'ai dit, je suis une bonne nordiste. Et je n'ai pas de solution, et c'est très rare qu'on parle de ce problème.
C'est rare parce qu'il est plus rare, mais en fait c'est beaucoup plus difficile de prendre du poids lorsqu'on est maigre de façon constitutionnelle que d'en perdre lorsqu'on est trop gros. D'abord, c'est une chance effectivement que dans le monde actuel, mais vous le vivez mal parce que trop maigre, effectivement, c'est pas forcément très esthétique. En fait, il y a malheureusement pas grand-chose à faire parce que vous avez sans doute un appétit qui règle très très bien votre apport de nourriture par rapport à ce que vous brûlez. Et les personnes très maigres, en général, ont beaucoup de mal à dépasser ce seuil de satiété, à aller au-delà quand leur corps leur dit stop. S'ils mangent plus, ils vont pas se sentir bien, du coup, ils mangent pas plus. Par ailleurs, si vous cherchez à aller contre votre nature, à prendre du poids en prenant toute la journée des glaces, des sodas, Vous savez, ce qu'il faudrait faire à ce moment-là, c'est manger à longueur de journée des aliments grossissants, que sont tous les aliments fluides, les smoothies, les glaces, les jus de fruits. Jus de fruits, c'est idéal pour grossir. Les aliments croustillants, galettes de riz, galettes de maïs, céréales du petit déjeuner, idéal également pour prendre du poids parce que c'est très très vite assimilé. Mais le problème, c'est que vous n'allez pas prendre du poids où vous le souhaitez, vous allez prendre de la graisse du ventre, et vous n'allez pas prendre de sein, et vous n'allez pas prendre de hanche. Vous allez être maigre avec de la bidoche. Donc moi, je vous conseille de rester comme vous êtes et de mieux vivre votre corps, et vous verrez que vous vous sentirez beaucoup plus joli, vous serez vu comme beaucoup plus joli.
C'est peut-être le conseil le plus important, Rita.
Oui, bien sûr.
Mais j'imagine que vous y avez pensé déjà mille fois.
J'entends bien tout ça, mais c'est vrai que c'est pas évident. Et bon, j'essaye un petit peu de prendre un petit peu de muscle aussi pour dessiner un peu plus mon corps. Mais c'est vrai que c'est un complexe, ça reste un complexe. Malgré tout. Donc, merci beaucoup pour quand même ces
Désolé de ne pas avoir de réponse plus porteuse.
Merci à vous, en tout cas, d'avoir appelé aujourd'hui, Rita, 10h33 sur France Inter. Ces messages qui nous arrivent sur notre mail, grandbienvousfasse@radiofrance.com, notamment Gaël qui nous dit « Pour être belle, il m'a fallu commencer par supprimer tous les produits cosmétiques bourrés d'allergènes qui irritaient, rougissaient, boursouflaient ma peau. J'ai reconquis ma beauté en utilisant des produits naturels simples comme des huiles du miel, etc. Et surtout, en m'acceptant sans fard, tel que je suis plus belle depuis que je m'aime et que je suis plus belle depuis que je m'aime tel que je suis et que je prends soin de moi pour me faire du bien, non pas pour me conformer à des critères extérieurs. » Elisabeth Azoulay, c'est intéressant ce que nous dit Gaëlle.
Oui, c'est très intéressant. Et en fait, encore une fois, cette notion de beauté, elle est d'une complexité incroyable parce qu'elle fait référence à plein de champs qui s'entrechoquent. Il y a d'une part, c'est vrai, une définition collective de la beauté à un moment donné dans une culture. Il y a une production, on dit, ben voilà, il y a des critères de beauté, des canons de beauté. Et puis, en même temps, ce que vous disiez, monsieur le philosophe, c'est que derrière cette beauté, il y a un enjeu qui est la construction de soi. C'est le fait de trouver, finalement, de la beauté, du style, on pourrait dire aussi, enfin quelque chose qui vous permet de vous placé par rapport aux autres, en faisant de votre corps, une sorte d'étendard de ce que vous pensez être. Et puis, entre des critères concrets, objectivables, des canaux objectivables, et puis le regard que l'on porte sur eux, et là, il y a tout un océan, c'est-à-dire qu'on peut exactement, avec la même caractéristique physique, se trouver plus ou moins beau. Et en fait, ce qu'on mesure pas, le travail qui a été fait au XXe siècle dans le regard. C'est-à-dire, laissons de côté toutes
le regard de l'autre. C'est le regard de celui qui regarde, celui qui est beau, et le regard qu'on porte sur soi.
Oui, quand on lit, par exemple, au XVIIe, au XVIIIe, des comptes rendus sur la beauté de gens différents de nous. C'est comme ça qu'on peut résumer. On voit à quoi ça peut correspondre, des récits de voyageurs, des récits de colonisateurs, etc. C'est très très difficile. D'abord, on n'est pas prêt à reconnaître de la beauté ailleurs. Après, on invente l'idée de beauté exotique, pour dire que c'est vraiment pas la nôtre. Et puis, petit à petit, aujourd'hui, presque tous, on est capable de trouver de la beauté chez des gens qui se ressemblent absolument pas. On est capable de trouver de la beauté un peu partout, avec des critères qui sont objectivement très différents les uns des autres. Donc on a un regard qui s'est élargi. On aimerait que par rapport à soi-même, on ait cette bienveillance aussi.
La question touche les jeunes, et de plus en plus jeunes, j'ai envie de dire, et je lisais une étude assez récente qui vous concerne, Bertrand Matteoli, chirurgien plastique, c'est que de plus en plus de jeunes poussent les portes des cabinets des chirurgiens esthétiques.
Oui, de plus en plus de jeunes, oui, mais pas forcément à bon escient. Hein. C'est pas comme.
Oui, mais ça veut dire que la question se pose chez eux.
Bien sûr, la question se pose. Alors, il y a des fois où ça peut être tout à fait justifié. Par exemple, pour une question d'intégration, pour une question de perception de son corps, par rapport aussi une jeune femme qui a pas de poitrine du tout peut être très complexée. À l'inverse, une jeune fille de 16 ans qui a une poitrine énorme, qui peut pas se mettre en maillot de bain, qui peut pas faire de sport parce qu'elle a ses seins qui la gênent, c'est logique de penser que si on réduit sa taille de ses seins, elle va se sentir mieux. C'est toujours le même problème, c'est de faire en sorte que si une intervention est envisagée, cette intervention, elle est pas faite pour répondre à des critères de mode, c'est pas fait pour faire plaisir à papa, à maman ou la petite amie ou au petit copain du moment qui peuvent changer qui vont changer, c'est fait pour que l'on se sente mieux éventuellement. Et c'est ça toute la difficulté qu'on a, nous, c'est de voir si, d'une part techniquement, parce que quand on fait une consultation, ça dure une demi-heure, une consultation, on voit quelqu'un qu'on n'a jamais vu, et en une demi-heure, il faut d'une part déterminer si techniquement l'intervention est faisable et va être profitable sur un plan technique, ça va assez vite, mais c'est surtout, est-ce que ça va faire du bien à la personne? Est-ce que la personne qui est en face de moi, si je l'opère, elle va se sentir mieux? Et c'est là où il faut parfois dire non. Et surtout chez les jeunes, c'est évident.
Être capable de dire non, mais ce qui est intéressant, c'est que ce soit les compléments alimentaires ou la chirurgie esthétique, l'idée a fait son chemin. Si on avait fait dans la société française, hein, si on avait fait cette émission il y a quelques années, on serait en train de se demander s'il faut y avoir recours ou pas. Aujourd'hui, on n'est plus en train de se dire y avoir droit, y avoir recours ou pas. C'est comment le faire.
C'est-à-dire que c'est complètement rentré dans les mœurs, parce que on est dans un monde d'image, on est dans un monde, il n'y a pas une femme publique ou un homme public de plus de, disons, 50 ou 60 ans qui n'ait pas fait de la médecine ou de la chirurgie esthétique, ça n'existe pas. Parce que il faut être en forme, faut pas avoir de cernes, faut pas avoir de poches, faut être si possible en bonne santé. Vous voyez, il y a plein de choses qui font que on est un petit peu contraint, entre guillemets, à faire de la médecine ou de la chirurgie esthétique.
10 heures.
Et ça sert à mon avis à rien de dire c'est bien ou c'est pas bien, c'est un fait.
C'est là et ça existe. 10 heures et bientôt 39 minutes sur France Inter. Elle doit faire partie de la courte liste des plus belles chansons du monde. Coucourou, coucou Paloma, Caetano Veloso. Et ces cadeaux, c'est pour vous. Belle matinée sur France Inter.
Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, 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 ay. Cantaba. Sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada.
Kukuru Kuku Paloma et c'est beau, mourir d'amour tellement la colombe est belle, une chanson du brésilien Caetano Veloso.
Thomas Chauvineau sur France Inter.
Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour être beau dans notre maillot? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui avec Elisabeth Azoulay, ethnologue, auteur de 100 000 ans de beauté aux éditions Gallimard. Jacques Fricker, qui est nutritionniste, auteur quant à lui de tout sur les compléments alimentaires. C'est aux éditions Odile Jacob. Et Bertrand Matteoli, chirurgien plastique, auteur lui de Bien dans sa peau aux éditions Duchesne. Sur franceinter.fr et sur notre mail grandbienvousfasse@radiofrance.com et au téléphone 0145 24 7000. On attend évidemment vos réactions sur l'émission. Violette nous écrit, elle nous dit « Bonjour, je m'appelle Violette, j'ai 18 ans, je vous envoie un message car anorexique en rémission, je dois dire que j'en ai assez qu'on continue à promouvoir cet idéal impossible car cela fait plus de mal que de bien, surtout pour les jeunes filles. Plutôt que de perdre du temps à se fatiguer, à changer son corps, on devrait commencer à s'aimer, ça sauverait sûrement des vies. » C'est vrai qu'il y a cette idée qui est renforcée hein, notamment par l'industrie et les images qu'on peut voir partout fleurir en ce moment de ces femmes en maillot de bain au corps sublime pour vendre tel ou tel complément alimentaire, Jacques Fricker notamment, hein, cette industrie qui pourrait renforcer aussi la détestation qu'on peut avoir de soi en faisant la promotion d'un idéal qui est évidemment inatteignable. On parle évidemment de photos retouchées avec Photoshop,
oui, et puis une mode tout à fait exagérée de la minceur quand on voit la taille, l'IMC, l'indice de masse corporelle des mannequins, c'est effrayant, dans le sens que ça conduit les femmes, et notamment les jeunes femmes ou les adolescentes, à vouloir être comme elles, ce qui est quasiment impossible. Et à ce moment-là, à ce titre-là, il faut faire extrêmement attention pour les jeunes adolescentes. Moi, je vois de plus en plus en consultation des jeunes femmes qui suivent des régimes vegan, des régimes qui ne sont que, où vous ne mangez que des végétaux, qui excluent tous les produits d'origine animale. Alors là, c'est une catastrophe au niveau santé, à tout niveau, au niveau musculaire, au niveau osseux, au niveau infection, au niveau perte de cheveux. Donc c'est à la fois au niveau beauté, au niveau santé. Et il faut vraiment dire, autant les fruits et légumes sont importants, mais attention au régime extrême quel qu'il soit, que ce soit le régime protéiné, où là c'est l'inverse, vous n'avez que des protéines, que de la viande ou du poisson. Le régime vegan, il n'y a qu'un certain type d'aliments, donc les fruits et légumes notamment, qui excluent tous les produits d'origine animale. Donc, on a vraiment besoin de manger du tout pour être en bonne santé.
Ça veut dire, Jacques Fricker, qu'il y a des types de régimes dont on fait la promotion dans des journaux, notamment, qui peuvent être dangereux pour la santé.
Oui, il y a eu la mode, il y a quelques mois, des juice extractors où il fallait tout prendre sous forme de jus, ce qui est une aberration totale. Ça coûte, d'abord, l'appareil coûtait très cher. C'est une alimentation qui est une alimentation avec des aliments bruts, basiques, très simples, qu'on trouve partout. Et de façon raisonnable, comme on mange en Crète, au Japon, dans le sud-ouest français par exemple, c'est absolument optimal, à la fois pour la santé et pour la minceur et pour la beauté.
Nous sommes aussi au téléphone avec Stéphane. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Stéphane, vous nous appelez, je lis l'affiche, mais c'est pas une blague, vous nous appelez vraiment de Finlande.
Oui, non, c'est pas une blague.
Formidable.
Vous écoutez au travail par internet pour passer un peu le temps, parce que je fais un travail qui est parfois un peu long, donc...
Eh bien, un petit bonjour à tous les auditeurs finlandais de France Inter. Nous vous écoutons, Stéphane.
Oui, je me demandais si on entendait tout à l'heure un de vos invités dire que sur un certain nombre d'études actuelles, on voyait que la taille des femmes était appréciée plus fine que leur hanche. Et après, votre autre invité a renchéri en disant que pour elle, c'est quand même surtout une histoire de culture. Et je me demandais si dans la beauté, il n'y avait pas aussi des critères évolutifs, donc des critères génétiques primaires, voire secondaires. Par exemple, on peut s'imaginer que les hanches plus larges permettent peut-être un meilleur passage du bébé pour la femme, et donc l'homme aurait reconnu avec l'évolution cette femme comme plus apte à porter un bébé.
Mais c'est tout à fait ça.
Le lien entre la beauté et peut-être la survie de l'espèce.
C'est tout à fait ça, puisque les femmes qui ont ce qu'on appelle un rapport taille-hanche qui est élevé, c'est-à-dire une taille fine par rapport aux hanches, qui est plutôt... Eh bien, ces femmes, en fait, vont avoir... Qui est plutôt bas, pardon. Les femmes qui ont une taille fine par rapport aux hanches, donc qui ont des hanches nettement plus larges que la taille, ont surtout une meilleure ovulation. Et donc, des meilleures chances d'avoir des enfants qu'une femme qui n'aurait pas de hanches. Donc oui, ça correspond effectivement, sans doute inconsciemment, ou consciemment, mais en grande partie inconsciemment, au fait que de rechercher chez la femme une femme qui puisse porter le bébé. Mais tout ça étant primaire. Après, il y a plein de choses de la culture qui interviennent, bien sûr, qui modifient. Par exemple, il y a un siècle, les femmes s'échangeaient des recettes pour grossir, non pas pour maigrir.
Elisabeth Azoulay, ethnologue.
Oui, dans nos idées sur la beauté, en fait, on est à la fois des préhistoriques ou des gens de l'Antiquité. C'est-à-dire que toutes ces idées qu'on a acquises dans l'histoire de l'humanité, il n'y en a pas une qui chasse l'autre. On les empile. Alors, par exemple, c'est vrai, vous avez raison, on a un peu des réactions par rapport à l'espèce. Et quand on juge de la beauté de quelqu'un, on évalue sa santé, on évalue sa fertilité pour une femme, et d'où cette préférence, et pour l'homme aussi, d'où cette préférence qui peut être marquée. Mais c'est contrebalancé par des idées qui sont des idées plus contemporaines. Et ça fait quand même quelques décennies, peut-être un siècle, j'ose espérer, qu'on voit dans les femmes une autre personne que celle qui va être simplement une génitrice. Et donc, il y a aussi aujourd'hui une autre tendance très forte qui est une certaine tendance à l'androgynie. Et derrière l'enjeu de la minceur, il y a un enjeu d'androgynie. N'oublions pas que nous sommes aussi les héritiers de luttes sociales, le féminisme, qui ne se sont pas terminées, le combat continue, et d'autres luttes pour l'expression des préférences sexuelles, etc. Et le corps féminin s'est transformé. Il s'est transformé parce que quelque part, avec un vestiaire commun, le jean, le t-shirt, avec des idées sur le corps féminin, qui est un corps qui doit lui aussi être sportif, lui aussi travailler, etc. On l'a remodelé.
Mais à l'inverse, on aurait pu imaginer qu'on pourrait apprécier des hommes aux hanches larges également.
C'est pas encore venu, mais ça viendra peut-être.
Nous sommes aussi au téléphone avec Lucie. Bonjour Lucie.
Bonjour.
Vous avez 17 ans, Lucie, vous écoutez France Inter. Et vous avez bien raison, Lucie, et vous nous appelez de Grenoble.
Oui, c'est ça, exactement.
Nous vous écoutons, Lucie.
En fait, donc, comme vous le savez, j'ai 17 ans. Du coup, mes amis, généralement, ont 17 ans. Et donc, mes amis jeunes femmes, avec l'approche de l'été, sont toutes en train de se diriger vers des régimes. Donc, il y en a qui commencent à être des régimes sans gluten, sans lait, etc. Il y en a qui veulent même faire de la chirurgie esthétique. Et je vous avoue que moi, en tant qu'amie de 17 ans, j'ai pas trop de pouvoir là-dessus. Et je sais pas comment, justement, les persuader de pas faire ça, parce que je trouve ça vraiment horrible de se détruire la santé juste pour correspondre à des attentes sociales et physiques.
Oui, parce que quelles sont les motivations de vos copines pour dire voilà, il faut que je maigrisse, qu'est-ce qui les influence à votre avis?
C'est pouvoir aller sur la plage et avoir un corps comme les mannequins sur des affiches pour H&M ou quoi, vous voyez. Moi, je trouve ça totalement inhumain, finalement.
Jacques Fricker, Bertrand
Théry. Peut-être que vous pouvez leur faire remarquer que leurs petits copains sont assez peu attachés à cela. Moi, il y a beaucoup de femmes, par exemple, par rapport à la perte de poids, quelle que soit la méthode, soit le régime, soit la chirurgie, qui souhaitent effectivement, comme vous le soulignez, parfois aller vers une silhouette androgyne, en reconnaissant que leurs petits copains ou leur mari ne le souhaitent pas du tout. Et qu'en fait, les formes sont appréciées souvent par les hommes, même si les femmes cherchent à les perdre. Donc peut-être, par rapport à la plage, relativiser ce qui est imposé par la publicité, notamment par la mode, pour leur montrer que finalement leurs amis et leur cercle d'amis attachent beaucoup moins d'importance et qu'il vaudra mieux qu'elles soient bien dans leur corps et qu'elles aillent danser, jouer sur la plage et autres, sans s'attacher à tout cela.
Après, on est aussi obligé de parler du marché qu'il y a derrière. Le marché du complément alimentaire en 2015, c'est 123 milliards de dollars dans le monde, 1,54 milliards en France. La chirurgie esthétique, c'est une progression de 8% en France cette année, avec des opérations qui vont de 3 000 à 6 000, 7 000, 8 000 euros. Donc, il y a aussi un marché derrière. Et qui dit marché, dit publicité. Qui dit publicité, dit de temps en temps façon de penser et puis aussi mensonge. Bertrand Matteoli.
Oui, bien sûr. Alors, il y a deux choses. Il y a la médecine esthétique qui est sponsorisée et qui marche, qui fait vivre les laboratoires qui vendent la toxine botulique, l'acide hyaluronique, ces choses-là.
Et ça fonctionne ?
Ça fonctionne, bien sûr, ça fonctionne. Mais eux, ils investissent énormément d'argent, puisque c'est leur but, c'est de vendre leurs produits aux chirurgiens ou aux médecins qui vont les injecter. Et puis, il y a la chirurgie esthétique, entre guillemets, elle, qui est pas dépendante des labos, qui est uniquement dépendante du praticien. Mais c'est évident que moi, je gagne ma vie en opérant les gens. C'est un fait. Donc, j'ai intérêt à opérer les gens. Mais j'ai intérêt à opérer des gens qui vont être contents, qui vont être satisfaits, qui vont être mieux dans leur peau, qui au mieux diront du bien de moi, vous voyez, qui vont bien s'accepter après. C'est ça le but, c'est parce qu'opérer, si c'est pour opérer des gens qui sont pas contents, puis au bout d'un an ça revient, c'est comme si on n'avait rien fait, ça marchera pas longtemps.
Et quelle est l'opération que à laquelle vos patients vous demandent de recourir le plus souvent?
Moi, ce que je préfère, c'est le lifting. Mais
c'est ce que vous préférez, vous, mais quand on vient vous voir, en général, en moyenne, on vient pour ça, le lifting?
Lifting et la poitrine et la liposuction. La liposuction, c'est l'intervention la plus pratiquée dans le monde. Toute intervention confondue. Il y a plus de liposuction dans le monde que d'appendicectomie, que de vésicule, que de... Donc, ça veut dire, pourquoi il y a un tel nombre? C'est que c'est efficace. Alors, avec des critères qui peuvent être un petit peu variables et qu'il faut bien préciser, c'est vrai. Mais ça marche bien. Donc
être plus jeune, paraître plus jeune en tout cas, et avoir l'air moins gros. 10h53 sur France Inter. On attendait leur retour et ça y est, ils sont là. Alt G, les Anglais de Leeds, et c'est eux qu'on écoute maintenant. Extrait du nouvel album de Alt G qui sort ces jours-ci et le titre c'est In Cold Blood.
Grand bien vous fasse. Thomas Chauvineau.
Jusqu'où peut-on aller pour être beau dans son maillot? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui avec Jacques Fricker qui est nutritionniste, Bertrand Mathéoli qui est chirurgien plastique, Elisabeth Azoulay qui est ethnologue. Et puis vous et vos réactions, bien sûr. Marina nous écrit de Marseille en disant « Je viens d'entendre une aberration de la part de vos invités que tout le monde à 60 ans est passé par la chirurgie esthétique pour des cernes ou des poches. » Bien sûr, pour ceux qui en ont les moyens, on a bien dit ceux qui ont une représentation médiatique et pas du tout tous les gens de 60 ans. Et puis sur Facebook, Cathy nous écrit « Personnellement, je fais une différence entre se sentir bien et être beau, car je crois vraiment que la beauté vient du regard des autres, subjective, variable, elle ne garantit aucunement le bien-être. En revanche, se sentir bien en forme révèle une beauté autour de soi, beauté qui n'a rien à voir avec les codes esthétiques du moment. » Et c'est vrai que finalement, c'est presque, ça pourrait être la conclusion, et d'ailleurs ça va l'être, puisque nous arrivons à la fin de l'émission, mais Elisabeth Azoulay, parfois c'est beau, mais aussi c'est faux.
Qu'est-ce qui est beau et qu'est-ce qui est faux?
Cette idée de retravailler son corps, ça pourrait être de la beauté, mais c'est faux. Il y a une forme de mystification peut-être derrière tout cela.
Il peut y avoir un miroir aux alouettes. Ouais. Il peut y avoir l'idée, il peut y avoir une recherche dont le but n'est pas clair. Voilà. Et effectivement, il faut vraiment être conscient lorsqu'on parle de beauté. Il faut vraiment essayer de réfléchir. Ça, c'est un sujet qui, c'est un sujet éminemment complexe. Et chacun devrait se poser la question de quel est son regard, à quoi il veut arriver vraiment, être réaliste, et puis essayer de réfléchir à la société dans laquelle il vit. Oui. Il faut faire tout ça en même temps pour être beau.
C'est une vaste question. C'est pas juste une histoire de régime, alors, finalement.
Si ça pouvait être simple. Mais c'est vrai qu'on est dans un monde qui est le monde de Photoshop. Et je pense que cette vie virtuelle, en particulier pour des jeunes gens, c'est très important. Je pense qu'à chaque époque, on a sa métaphore. Et je pense que la nôtre, c'est Photoshop, avec deux idées. D'abord, c'est l'idée que c'est facile de changer le corps. Et puis que c'est possible, c'est légitime.
Et c'est pas si facile que ça, on vient d'en parler. Bien, merci à tous les trois d'avoir été en direct avec nous ce matin, en ce jour férié. Demain, Ali Rebéi sera de retour, prolongement direct de l'émission d'aujourd'hui. Ali s'intéresse à la salle de bain, avec notamment Georges Vigarello. Et vous pouvez déjà laisser vos témoignages sur le mail de l'émission grandbienvousfasse@radiofrance.com.